je t'appelle parce que ce soir, je suis repassé à l'étang, là. Et, alors, c'est rigolo parce que la fiche de Sarkozy, elle est complètement décaniée, ça y est. Elle est en lambeaux, quoi. Et, il reste presque plus rien. Quelques lettres, on arrive à lire « Orkozy ». C'est amusant parce que ça ressemble en même temps au candidat, quoi. C'est-à-dire que celle de Le Pen aussi, il y a des morceaux arrachés. Et puis ça fait cette espèce de... ça a une forme de flamme, comme ces flambeaux là que portent les faisceaux fascistes. Là. Enfin, c'est la forme des drapeaux qui ressemble à des flammes. Là. Mais là aussi, on voit presque plus rien. Devidier, il est déchiré, mais l'affiche est encore là. Donc, je veux dire, ce sont toujours les mêmes qui ont été... qui sont visés. Et alors, Bayrou, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y avait trois affiches superposées, et ça avait été savamment découpé, et ça ressemble aussi au personnage, parce que, donc, son visage, on le distingue plus beaucoup, mais ils ont fait une espèce de jeu entre les différentes affiches, un découpage qui fait ressurgir des éléments des photos de dessous, quoi. Et ça fait comme ça, ça évoque un peu la duplicité du personnage. Et les 8 autres affiches intactes, rien, pas bougé. Voilà.
Bon, Daniel de la Blachère en Ardèche, je suis en voiture, je réagis à chaud à l'émission que je viens d'entendre. J'avoue que je suis scandalisé par votre parti pris de mettre sur un même plan les socialistes et les gouvernements de droite des années 80. Certes, les socialistes ont commis des erreurs, certaines furent graves, mais cependant... la droite libérale qui a sévi entre 86 et 88 était bien pire que ce que les socialistes avaient fait auparavant. En procédant ainsi, à une semaine des élections, j'ai le sentiment soit que par aveuglement vous pratiquez la politique du pire en favorisant l'élection de celles et ceux que vous n'aimez pas, soit c'est délibéré... Et dans ce cas-là, mais je suis persuadé que ce n'est pas le cas, mais si c'était le cas, ça serait vraiment dramatique. Voilà, au revoir.
Merci à l'équipe de Là-bas si j'y suis pour cette série d'émissions sur les années 80. Moi j'ai eu 20 ans dans les années 80, donc évidemment ça m'a rappelé pas mal de souvenirs et bon j'étais en plein dedans. Hein. J'étais à la Bastille en 81, j'étais à la Concorde pour la fête de SOS Racisme. J'étais devant la télé pour regarder les Jeux Olympiques de Los Angeles. J'ai vu aussi l'émission Vive la crise, bien sûr. En 86, j'étais dans la rue pour protester contre la loi de Vaquet. En 88, j'étais à la République pour la réélection de Mitterrand. Mais bon, j'avais quand même pas voté pour lui au premier tour. Faut pas délirer. Mais en écoutant votre émission, je me suis demandé tout le temps, effectivement, quand est-ce que... j'avais compris ce qui se passait et jusqu'à quel point j'avais suivi. Bah, là, c'est un peu la dernière émission qui m'a donné la réponse. Et ce qui s'est passé, c'est au moment de l'anniversaire, le bicentenaire de la Révolution française, quand j'ai entendu des gens identifiés, proches du Parti Socialiste sans doute, qui nous disaient que l'égalité, c'était plus vraiment une valeur républicaine, mais qu'il valait mieux parler d'égalité des chances... Ça m'a fait vraiment comprendre. Et je pense qu'il y a eu effectivement un processus qui a amené à ça. Mais pour moi, ça a été le déclencheur. Donc je vous remercie encore. Ça fait du bien de se replonger dans ces souvenirs, même s'ils ne sont pas toujours agréables. Allez, salut, c'était Jean-Michel de Paris.
Je voudrais rappeler aux auditeurs qui penseraient voter Sarkozy que surtout ils se rappellent que bien... s'il avait été président, nous serions aujourd'hui en train de compter nos morts auprès des Américains tous les jours, nos morts en Irak. Voilà.
Eh bien, c'est exactement la réflexion qu'on s'est faite hier à Toronto. Parce qu'à Toronto, hier, nous avons rencontré des déserteurs de l'armée américaine, des déserteurs d'Irak, des soldats américains, qui se réfugient au Canada à Toronto. Ils sont, on ne sait pas très bien leur nombre, bien évidemment, quelques centaines, quelques milliers, on ne sait pas exactement, qui espèrent du Canada un statut et un statut de réfugiés politiques. Ils sont très bien accueillis par la population, par les Canadiens, qui sont très fiers de n'être pas entrés dans cette guerre en Irak. À l'époque, en 2003, ils étaient hostiles à hauteur de 60%. Aujourd'hui, ils sont hostiles à hauteur de 80%, même si, par ailleurs, le Canada est impliqué en Afghanistan, mais plus de 50% de la population aujourd'hui est contre cette guerre, ce qui montre que un gouvernement, une fois qu'il a été élu, peut faire n'importe quoi contre l'opinion. Matière à réflexion pour ces jours qui viennent. À Toronto aussi, on a rencontré des gens, et notamment un journaliste qui étudie un cas peu connu en France, Henry Ford. Les voitures Ford, quoi, quelle marque plus connue au monde? Eh bien, Henry Ford, le père de la marque Ford, l'inventeur du Fordisme, était un nazi, était un supporter d'Hitler. Il avait pour Hitler une admiration sans borne. Il était un antisémite frénétique, militant, et il était la référence pour Hitler. Hitler ne jurait que par Henry Ford, et dans son bureau, Hitler avait le portrait de Ford. Et ça, on le sait peu, on le sait pas, même aux États-Unis, on le sait peu et on le sait pas. Et c'est un cas de négationnisme, on peut dire, médiatique, intellectuel, comme vous voudrez, ou capitaliste, puisque pour laver la marque de cette histoire, eh bien, beaucoup s'y sont employés, Ford étant le premier annonceur dans les médias américains. Ce sera un des sujets qu'on développera à notre retour dans quelques jours. Aujourd'hui, un personnage, une personnalité passionnante, Jean Ziegler. Jean Ziegler qui apparaît dans un film passionnant qui s'appelle We Feed the World. We Feed the World, le film de Erwin Wagenhofer, sort ces jours-ci, et on a cru bon de rencontrer à cette occasion Jean Ziegler. On s'est demandé pourquoi on ne s'était pas rencontré plus tôt, d'où urgence, c'est jusqu'à 16h, c'est dans la base si j'y suis. Salut de Boston, où nous sommes encore aujourd'hui, pour rencontrer à nouveau Noam Chomsky, mais en deuxième partie. Et puis ensuite, ce sera, si tout se passe bien, le retour sur Paris. Mais pour l'instant, Jean Ziegler.
Salut, c'est Daniel Mermet là-bas, si j'y suis avec Jean Ziegler, auteur de L'Empire de la Honte, à l'occasion de la sortie du film We Feed the World de Erwin Wagenhofer. Flight number 2, arriving from
New York. Je suis content de vous recevoir et de vous rencontrer, Jean Ziegler, parce que vous êtes quand même un petit miracle, et c'est un petit miracle que vous occupiez...
Non, mais...
que vous occupiez ce rôle de rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme sur le droit à l'alimentation, c'est un titre ronflant.
Oui, complètement.
Oui, mais c'est quand même assez formidable. C'est quand même assez formidable parce que vous avez un regard radical, un goût et un sens de la dénonciation, de la révolte depuis longtemps. Et des gens comme vous, ben, ça gêne beaucoup quand même, il faut bien dire la vérité.
Oui.
Et quand même, il y a un petit phénomène qui a voulu que vous soyez là.
C'est vraiment un hasard. Je veux dire, c'est pas... Si Kofi Annan, je le connaissais depuis Genève et depuis longtemps, etc., il a des convictions. Hein. Je veux dire, il a ce côté... hyper diplomate, parce qu'il est de la génération guyanaise sous la colonie, donc il devait, au Ghana, il devait négocier chaque bourse, donc il a gardé cette habitude de prudence extrême face aux Blancs. Hein. Mais au-dedans de lui-même, il est humilié, il est déterminé, les Américains l'ont traité, mais comme un esclave de l'Alabama, enfin je veux dire, c'est incroyable. Donc là, il m'a défendu, c'est pour ça un peu, je crois.
Mais on va parler de la raison pourquoi vous êtes là pour le film We Feed the World, le marché de la faim, qui va sortir en France ces jours-ci, et donc vous êtes partie prenante, mais on va rester un petit peu sur vous, sur ce parcours. Militant, ça vous va, militant, de dire militant?
Oui.
Oui,
c'est un honneur,
oui. Et on raconte que vous aviez, à la base de tout ça, il y a une rencontre avec Che Guevara.
Oui. J'étais au... J'ai fait Sciences Po à Paris, etc. J'étais au groupe Clarté de l'Union des étudiants communistes. Et on a fait un premier voyage à Cuba. C'était l'époque, début des années 60, où, à la Safra, etc. Et là, comme c'était les premières années de la Révolution, c'était, les rencontres étaient très faciles. On a rencontré le Che, les frères Castro, etc., etc. Bon, je suis rentré à Genève. Et tout à coup, je reçois depuis Prague, parce que la seule ambassade qu'ils avaient, un appel disant, il y a une délégation cubaine qui vient, on n'a personne à Genève, ni consulat, ni etc. C'était la grande conférence du sucre en 64, vous voyez, j'étais tout jeune à l'époque, 64. Est-ce que vous pouviez les transporter, aider un peu administrativement, etc. Et 12 Cubains sont arrivés à l'hôtel intercontinental, en trois chambres, là, au Grand Saconnet, conduits par le Che. Il y avait trois commandants et le Che qui, pour la conférence du sucre, c'est la première grande conférence du sucre, pour l'accord sur le sucre. Pour eux, c'était très important. Et là, j'ai été le chauffeur du Che pendant 12 jours, avec ma petite Maurice Noire. Dimanche, on allait à Chamonix, etc., etc. Et à la dernière, dans la dernière nuit, oui, un petit bourgeois romantique complètement, dernière nuit, j'ai dit, commandant, mais je voudrais venir avec vous. Je veux combattre, je veux venir avec vous. Puis il était dur, il était froid, le Che. C'est pas du tout comme Fidel, enfin, vous les connaissez. Il m'a appelé à la fenêtre, là, au 8e étage, et me dit, tu vois cette ville-là. Et c'était tard la nuit où il y avait toutes les réclames, etc.
Genève,
etc. Vous connaissez la rue. Il dit, tu vois cette ville, c'est là où tu es né, c'est le cerveau du monstre, c'est là que tu dois lutter. Il s'est retourné, parti.
Terminé, c'est ce que vous avez fait.
Eh oui, non, mais c'est, évidemment, il a dit ça avec mépris. Mais je suis l'un. Dit, on n'a pas besoin de toi. Et j'étais très, très blessé, évidemment. J'étais très blessé, quoi. Il me dit, mais prends pour un petit bourgeois, ce qui probablement était le cas, inutile. Mais en fait, il avait raison. Vous comprenez, parce que j'aurais été un des centaines ou milliers de mais qu'inutile, enfin j'entends, militairement j'étais pas, certainement pas particulièrement bon, et j'aurais été dans une fosse au Guatemala ou n'importe quoi après quelques mois, tandis que là j'ai pu, utilisant les institutions, députés au Parlement, etc. Vous comprenez, il m'a rendu un énorme service. Hein.
Oui, c'est ça.
Un énorme service.
Vous n'êtes pas contenté d'être un petit bourgeois avec des romantiques.
À partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait... prendre les armes qu'on avait, qui n'étaient pas les armes de l'insurrection et de la contre-violence. Mais il faut aussi dire que je suis privilégié incroyablement. C'est vrai, j'ai eu 6 procès sur le dos avec 6,6 millions de francs de dommages et intérêts, levée d'immunité parlementaire, etc., des menaces de mort, mais strictement rien de comparable à ce que des dizaines de milliers d'autres vivent dans les pays de la périphérie. Vous comprenez, c'est que je suis quand même blanc, universitaire, d'origine bourgeoise, donc j'ai toujours mangé, etc., etc. Vivant à Genève, qui est totalement corrompu, complètement cynique, tout ce que vous voulez, mais il y a certains droits, hein. Et puis voilà, je suis invité par vous, ce qui est quand même une protection.
Oh bah
non,
oui.
Mais c'est vrai. Oh, ça. Mais c'est vrai. C'est vrai, vous comprenez le...
Alors, on va parler de ce film qui va sortir en France, We Feed the World, qui est un film d'un documentariste autrichien, Erwin Wagenhofer, et qui est venu vous voir. Vous le connaissiez comment?
Non, je connaissais de nom, vaguement, comme ça. Il avait fait des films. Il est de cette extrême gauche antifasciste autrichienne qui est très très dure, hein, qui est très
fait.
Qui prend tout, enfin, parce qu'il y a beaucoup de nazis qui ont survécu en Autriche, et lui il est très très dur là.
Oui,
c'est comme ça que je l'ai connu. Par exemple, il était au cœur de ce petit groupe qui a fait les manifestations contre Haider et qui a obtenu, vous vous souvenez quand Haider était au premier gouvernement, donc l'Europe les a mis en quarantaine. Et Wagenhofer était dans ce groupe qui a organisé la dénonciation de Haider en Europe. Et en Vienne, il était traité, évidemment, comme traître à la patrie, etc., etc., menacé. C'est de là que je le connaissais.
Mmh. Donc, vous avez vu son film ou...
Non, pas du tout. Il est venu... Non, pas du tout. Il m'avait juste montré l'interview, enfin le rush qu'il avait sur Brabeck. Mais j'ai pas vu le film. Mais j'ai senti qu'il avait bien compris le livre. Donc j'avais.
C'est ça. Il était parti de votre bouquin, L'Empire de la Honte, qui est sorti en 2005. Alors, il essaye et il parvient à nous secouer les puces, hein. Le Wagenhofer, sur l'alimentation, sur la domination de la nourriture, par finalement quelques multinationales, sur la façon dont quelques entreprises dans le monde... D'ailleurs, vous avez une formule, vous qui commentez le film, enfin qui intervenez dans le film, vous dites, il n'y a pas de libre-échange,
non,
il n'y a que la loi du plus fort.
Bien sûr, c'est la loi de la jungle, c'est des seigneurs de guerre, hein, Brabeck, ces types-là, c'est des seigneurs de guerre.
Brabeck, c'est le directeur, le patron de Nestlé.
C'est le PDG de la première société transcontinentale alimentaire et de l'eau en bouteille de la planète.
Qu'on voit à la fin du film, il y a un plan...
extraordinaire, qui se révèle.
Voilà,
qui est absolument formidable. Une usine japonaise de Nestlé. Regarde, c'est magnifique, il n'y a personne dedans. Enfin, une usine sans hommes. Hein, il trouve ça magnifique. Il dit, nous allons tellement mieux, tout le monde est mécontent, qu'est-ce que c'est? Nous vivons beaucoup plus longtemps, nous vivons beaucoup mieux, nous avons tout ce qu'il faut. Alors, au Rwanda, l'attente de vie est de 39 ans, hein, je veux dire, elle a baissé de 5 ans depuis 10 ans maintenant, je veux dire, nous vivons beaucoup plus longtemps. Ben, c'est vrai, un Autrichien blanc, il vit à 76 ans, enfin, statistiquement, et au Rwanda, c'est 39 ans. Et lui, nous, les Blancs.
Nous, les Blancs,
tout va bien, etc., etc.
Alors, comment ça s'est produit? Comment ce phénomène s'est-il produit? Comment on en est arrivé, finalement, doucement, sans toujours s'en rendre compte, sans oser s'en rendre compte non plus, à cette situation de l'alimentation dans le monde?
C'est un aspect de ce qu'on appelle la globalisation. Je veux dire, le pouvoir des cinq plus grands sociétés transcontinentales qui dominent les ressources, les matières premières agricoles, d'abord. Hein, avant qu'ils fabriquent de la nourriture, ils dominent les matières premières agricoles, du café, au coton, etc. Quand la bipolarité a disparu, donc l'Union soviétique s'est implosée en août 1991, bon, c'est une bonne chose, enfin, je veux dire, si c'était communiste comme moi, je suis bouddhiste. Mais enfin, la bipolarité, le mode de production capitaliste jusqu'à ce moment-là était territorialement limité. Bon, il a conquis le monde en un rien de temps, hein, instaurant une instance de régulation unique et le marché mondial, hein, la main invisible, qui agit à travers les bourses. Donc c'est le capital financier qui s'est autonomisé de toutes les formes de capital. Et ils ont pris en main la planète. Et... pourquoi ça marche si bien? D'une part, parce que la globalisation, elle marche sur le plan de la productivité, sur le plan les sociétés multinationales, ils savent faire des trucs, mais incroyables, instrumentalement parlant. Ils sont d'une créativité, d'une... à Bâle, dans la pharmacie internationale, enfin, Trust Pharmaceutique, il y a un nouveau molécule qui naît tous les 15 jours. À Wall Street, un nouvel instrument financier tous les mois. Enfin, il y a une créativité, un savoir-faire, une avancée technologique, etc., etc. Une brutalité de la conquête du marché du monde dans ces sociétés multinationales qui a fait que, dans la première décennie de cette globalisation, donc de constitution du marché mondial, 92-2002, Banque mondiale, le produit mondial brut a doublé. Le commerce mondial a plus de triplé, a crevé le fameux plafond des 6 000 milliards de dollars de valeur de biens échangés. Et la consommation d'énergie double tous les 4 ans. Donc d'immenses richesses ont été créées pour la première fois, c'est vrai, à la fin du siècle dernier, l'humanité est sortie statistiquement de l'empire de la pénurie et entrée dans l'empire de l'abondance, statistiquement.
Statistiquement.
Oui, c'est vrai. C'est, je veux dire, par exemple, si vous prenez la faim, c'est le World Food Report, hein, c'est la FAO, qui donne les chiffres des victimes de la faim. 100 000 personnes l'année dernière qui sont mortes de faim ou de ses suites immédiates. Déficience immunitaire, du RF, etc. Tous les 5 secondes, un enfant en dessous de 10 ans meurt de faim. etc., etc. 852 millions de personnes, toujours l'année dernière, parce que les chiffres de cette année, on ne les a pas. L'année dernière, un homme sur six sur la planète est gravement, permanent, sous-alimenté. Et le même World Food Report, qui donne les chiffres des victimes, incontestables, dit que l'agriculture mondiale, avec les techniques, la productivité actuelle, pourrait nourrir sans problème, 2700 calories individuelles par jour, sans problème, 12 milliards d'êtres humains. Nous sommes 6,2. La faim est donc un assassinat. Il n'y a aucune fatalité. Hein? Nous sommes entrés vraiment dans le royaume de l'abondance. Alors, c'est pour ça que les Brabeck, la théorie néolibérale est tellement triomphante. Parce que, regardez, ça marche. Vous abolissez toutes les frontières, tous les comptes de pouvoirs syndicaux, la souveraineté d'État, etc. Et le capital va, s'il est totalement libre, à n'importe quel moment, là où il fait le profit maximal. Ce qui est vrai.
Statistiquement vrai.
Statistiquement vrai, mais en même temps, nous vivons la reféodalisation du monde, c'est-à-dire la captation par quelques oligarchies détentrices du capital financier d'énormes, d'incroyables richesses, pouvoirs économiques, idéologiques, etc. Ils ont un pouvoir. L'année dernière, les 500 plus grandes sociétés multinationales, transcontinentales privées, sur les 85 000 qui sont enregistrés par l'ONU, les 500 plus grandes ont contrôlé 52% du produit mondial brut, c'est-à-dire de toutes les richesses en capitaux, marchandises, brevets, services produits en une nation sur la planète. Ils ont un pouvoir comme aucun pape, aucun empereur, aucun roi n'a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Et ces seigneurs de la guerre économique sont les maîtres du monde.
Ce qui est intéressant dans le documentaire de Wagenhofer, je rappelle le titre « We Feed the World », et au passage, il faut bien dire que « We Feed the World », c'est la devise de Pionnier.
Voilà, hein? Ils disent, d'abord l'armature idéologique est extraordinaire, et donc l'aliénation des hommes aussi, « We Feed the World », c'est dire « nous nourrissons le monde ». Si nous, heureusement, nous sommes là, admirez-nous, remerciez-nous, nous Nestlé, nous Continental Grains, nous Monsanto, nous pionniers, là c'est le quatrième des seigneurs, nous pionniers, nous nourrissons le monde. Et donc, à ce niveau d'aliénation ou d'affirmation mensongère, si vous voulez, toute critique s'éteint.
Absolument, il y a une espèce d'affirmation vertueuse.
Bien sûr.
Alors, or, le film essaye de faire un lien entre ceux qui sont victimes de cet assassinat, pour reprendre votre formule, et les pays riches.
Oui. Hein,
ça commence à Vienne, où on voit comment le pain est traité, comment il est fabriqué, comment une part de ce pain est jetée presque aussitôt, à peine fait, est jetée. Mm-hmm. On voit ensuite, on s'intéresse au lait, on s'intéresse à la viande, le poisson, etc., enfin tous les aliments, mais dans un lien entre la production, parce que on vit une époque où, l'histoire est connue, si on demande à des enfants de dessiner un poisson, ils font un carré. Et c'est qu'on ne sait pas d'où ça vient, et on ne sait pas très bien où ça va. On voit la séquence où on achète, on bouffe et on jette à la poubelle ce qui reste. Mais d'où ça vient, comment c'est produit, enfin le contexte de ce qu'on mange, avant et après, on ne s'en préoccupe pas. Et on ne cherche pas à nous en préoccuper.
Je pense que ce qui est très très bon dans le film, et vous avez tout à fait raison, c'est cette qualité analytique. Hein, il a la fin que je vois en tant que rapporteur spécial des Nations Unies, je la vois en Mongolie, je la vois au Guatemala, je la vois au Bangladesh, elle est effroyable. Je veux dire, quand vous voyez des gens sous-alimentés ou mourants au sud de l'Éthiopie, que je l'ai vu récemment dans des feeding centers de l'UNICEF, les gosses qui sont tout près de la mort et qui reçoivent la nourriture thérapeutique et peut-être reviennent, c'est horrible. Or, Wagenhofer fait abstraction totalement de l'émotion. Hein, il n'y a pas une image, pas une seconde dans ce film formidable où on fait appel, ce qui serait normal finalement,
à la compassion,
ou au choc des images, comme on dit un peu banalement, au choc des images, un enfant mourant, montré, etc., etc. il ne veut pas cette émotion-là qui passe et qu'on évacue, etc. Il veut que la conscience se crée, la conscience avance. Donc, il montre des chaînes argumentatives, c'est-à-dire, c'est la raison analytique en marche, évidemment. À l'aide d'images, parce que c'est un grand artiste, hein, et je les admire, ces artistes-là, parce que moi, je ne fais que des livres mais je veux dire, c'est vraiment très, très fort. Ce film, je trouve, il est tout à fait remarquable pour ça, parce qu'à l'aide de son talent d'artiste, il montre des chaînes causales tout à fait dévastatrices. Par exemple, le Brésil, la séquence sur le Brésil. Dans les derniers 3 ans, 16 000 hectares par an, sur 3 ans, de forêts amazoniennes ont été détruits, sont devenus des plantations de soja. Le soja est exporté pour nourrir des poules élevées en batterie industrielle, ça on le voit, c'est la deuxième séquence dans des conditions assez effroyables.
Je ne suis pas sûr qu'on bouffe encore du poulet après ça.
Je ne sais pas, moi pas.
Non plus.
Ensuite, ces poulets sont tués, évidemment, sont dépecés, c'est-à-dire les bonnes parties, les cuisses et les ailes, vont dans les supermarchés européens. Le reste du poulet de la carcasse est surgelé, expédié au Cameroun, par exemple, ou avec des prix de dumping, sont jetés sur le marché, toujours par les mêmes trusts, hein, sont jetés sur le marché et détruisent l'élevage artisanal et familial de poulets, parce qu'ils sont beaucoup meilleurs marchés, au Cameroun même, ruinent les familles au Cameroun même. Donc, alors, pourquoi les poulets mangent la forêt amazonienne et ensuite détruisent la vie, l'existence économique de milliers de familles au Cameroun, par exemple? À cause de la dette extérieure, puisque le Brésil a la deuxième dette extérieure la plus élevée de tous les pays du tiers-monde, 242 milliards de dollars. Alors, le Brésil a un président tout à fait remarquable, démocratiquement élu pour la deuxième fois, un ancien ouvrier métallurgiste.
Lula.
Luiz Inácio Lula da Silva, qui n'a plus de doigt à la main, manque un doigt à la main gauche, parce qu'à 14 ans, il travaillait déjà dans les usines Volkswagen et il a perdu son doigt, qui est un ouvrier convaincu, fraternel, intelligent, je veux dire, il n'a pas changé, hein, il n'a pas tourné sa veste en arrivant au Palacio du Planalto. Mais il est pris dans cette monstrueuse violence structurelle de la dette extérieure, parce que pour pouvoir servir la dette, il faut qu'il gagne des devises. Alors, et donc, il doit détruire la forêt amazonienne, il doit faire du soja qui est exportable et payable en devises, il doit mettre en route ce circuit malgré lui, meurtrier du poulet surgelé. C'est ça qui est, dans cet ordre du monde, du capitalisme globalisé, du capital financier, c'est ça qui est tellement absurde. Il est meurtrier, cet ordre du monde. Il tue, les chiffres sont là, pour les épidémies, pour la faim, etc. Nous en avons parlé. Et en même temps, il est absurde, parce que pour la première fois, il tue sans nécessité. Il tue sans nécessité.
Expliquez-nous. Je sais que vous le faites très souvent, mais expliquez-nous le système de la dette. Pourquoi le Brésil, par exemple, est un pays endetté? Comment fonctionne la dette?
Bon, c'est un problème compliqué, mais je vais schématiquement...
On vous fait confiance pour nous le schématiser.
D'abord, les 122 pays dits en développement, donc il y a 192 pays qui sont membres de l'ONU, tous les États du monde, sauf le Vatican, mais là, on peut s'en passer. Il y a les 120... et 122 pays sont dans la catégorie pays en voie de développement. Ça va de très pauvres à des pays puissants. Ces 122 pays en voie de développement ont eu une dette étrangère cumulée au 31 décembre dernier de 2100 milliards de dollars. Le premier pays le plus endetté, c'est évidemment les États-Unis, mais on ne les compte pas, hein, puisqu'ils impriment eux-mêmes la monnaie de réserve du monde. Donc ça, c'est autre chose. Mais quand je dis la dette du Brésil est la deuxième, c'est la deuxième derrière le Mexique. Bon. La dette, originairement, vient du fait qu'il n'a pas d'accumulation du capital interne suffisante d'épargne. Par exemple, un pays comme le Niger, je prends cet exemple, qui est le deuxième pays le plus pauvre de la Terre. Le Niger ou le Burkina Faso, ils n'ont pas des carnets d'épargne par millions, comme en Suisse. En Suisse, nous sommes 7 millions d'habitants, il y a 12 millions de carnets d'épargne, pour ne prendre que ça. Il y a une accumulation interne, les gens gagnent assez d'argent pour le mettre de côté, etc. Une accumulation interne de capitaux qui sert ensuite à des investissements. investissements, etc., par les grandes banques. En plus, le capital en fuite, évidemment, et le capital de la mafia qui afflue en Suisse grâce au secret bancaire. Mais à l'origine, les pays du tiers-monde, surtout les pays sortant de la nuit coloniale, devaient emprunter à l'extérieur pour pouvoir financer des infrastructures routières, proto-industrielles, etc., etc. Et l'idée était, avec les produits qu'ils produisent dans les usines payées à crédit, hein, par ces produits-là, on pourra rembourser ensuite les dettes et se libérer de la dette.
Ce que vous dites, c'est la dette a été nécessaire dans ces pays, vous venez de dire, sortant de la nuit coloniale.
De la nuit coloniale, voilà, totalement. Voilà. Totalement, parce qu'ils n'avaient pas du capital interne, il n'y avait pas de bourgeoisie interne. Donc l'idée initiale de la dette est intelligible, elle a sa propre raison, mais tout à coup, évidemment, très rapidement, le cycle s'est détraqué et est devenu un cycle infernal. C'est-à-dire, comme il ne pouvait pas payer les intérêts ni les tranches d'amortissement périodiques, il devait prendre des nouveaux crédits. Or, pour les banquiers, le risque augmente chaque fois que vous êtes de plus en plus endetté, donc les intérêts deviennent de plus en plus élevés, jusqu'à ce que vous soyez pris à la gorge, totalement, pratiquement insolvable. Et c'est là où le capitaliste triomphe, c'est-à-dire quand vous êtes pratiquement insolvable et plus capable de payer les intérêts de remboursement, le capitaliste, enfin, je dis ça un peu rapidement, le club de Paris, pour dire ça plus, le club des grandes banques créancières de Paris, ou le FMI à Washington, pour la dette publique, viennent et disent, bon, vous ne pouvez pas payer les intérêts pour les mois de novembre jusqu'à avril, pour ce semestre-là, alors, on vous demande de nous céder tel ou tel secteur public que vous avez. Je prends le Brésil. Le Brésil avait un secteur public industriel. Le Brésil est puissant, c'est la moitié de l'Amérique latine. C'est 181 millions d'habitants. Donc 44 millions, selon Lula, sont gravement et en permanence sous-alimentés. Le Brésil avait un secteur public puissant. Des télécommunications, des industries d'aviation, etc., etc. Et le FMI a exigé graduellement la privatisation à des conditions tout à fait scandaleuses entre les mains des sociétés multinationales. Et aujourd'hui, de tout ce secteur public brésilien, Electrobras, Telebras, etc., tout est parti entre les mains espagnoles, américaines, françaises, etc., privées. Seul reste Petrobras. Parce que Lula a dit, jusque-là, et pas plus loin, c'est la ligne rouge, l'approvisionnement en pétrole, le forage dans la baie de Guanabara, etc., Petrobras, je ne le cède pas aux banques créancières. Je ne le cède pas aux banques créancières. Donc, la dette aujourd'hui, quand vous discutez avec un banquier calviniste genois, ce qui m'arrive, parce que c'est une petite ville et on se croise quand même, il est tout à fait d'accord. Il dit, mais la dette extérieure des pays du tiers-monde, notamment des pays les plus pauvres, c'est terrible. Parce que ça prive ces pays de faire le moindre investissement dans l'irrigation, dans les engrais, dans les écoles. Mais il dit, on ne peut rien faire, qu'est-ce que vous voulez, s'il ne paye pas les intérêts, c'est le système bancaire international qui s'écroule. Ce qui est un mensonge total. La dette est là, uniquement, parce que comptablement, ça ne joue pas. Puisqu'en 87, quand il y avait le dernier krach boursier, qui est passé très rapidement en 6 semaines, eh bien, la somme qui a été détruite par les chutes des cours aux principales bourses européennes, japonaises et américaines, était de 8 fois supérieure à toute la dette extérieure de tous les pays du tiers-monde. Et la bourse est totalement rétablie, le système bancaire est resté totalement indemne, mondialement parlant, totalement indemne. Donc, si on biffait la dette, annuler la dette, ce que demandent même les églises aujourd'hui, je veux dire que la société civile internationale demande pour les pays les plus pauvres, en tout cas, ça n'aurait aucune incidence pour le système bancaire international. Il n'y a aucune banque qui ferait faillite, aucun épargnant européen qui perdrait son avoir, etc., etc. Mais la dette est là comme un garrot qu'on peut serrer un peu plus si le pays du tiers-monde, par exemple, ne veut pas négocier son contrat pétrolier ou son contrat pour les cacahuètes ou son contrat pour le Tchad, le coton, par exemple, au prix exigé par les multinationales, qui est un prix bas, ou si ce pays-là ne veut pas voter ou les puissances dominantes à l'Organisation mondiale du commerce, ou si ce pays-là mène une politique de solidarité avec tel ou tel mouvement de libération quelque part dans le monde, eh bien, on serre le garrot. Et c'est un instrument de mise en soumission des pays du tiers-monde. La dette est l'instrument le plus, avec la faim organisée, l'arme de destruction massive la plus efficace contre aujourd'hui ces pouvoirs féodaux qui ont monopolisé le pouvoir dans le monde.
Mais pourquoi le FMI impose-t-il ses choix ? Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, étaient au départ, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, des institutions qui avaient une mission de soutien, de développement, de réglementation. Pourquoi est-ce que dans le cas que vous citez du Brésil, pourquoi est-ce que le FMI, aujourd'hui, impose au gouvernement brésilien de privatiser ces biens publics? Qu'est-ce
d'abord,
qu'il y a derrière
vous,
ça?
Il y a, si vous voulez, ce que vous dites d'abord est tout à fait juste. Les institutions de Bretton Woods, c'est un petit village dans le New Hampshire, où en 44, avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les plénipotentiaires occidentaux se sont réunis, ont dit qu'est-ce qu'on fait pour redresser cette Europe, hein? Et ils ont créé le Fonds monétaire international qui devait reconstruire les monnaies européennes, les coordonnées, etc., etc. La Banque mondiale, enfin le groupe de la Banque mondiale, parce qu'il y a quatre banques dans le World Bank Group, dans la Banque mondiale, devait donner les crédits nécessaires pour la reconstruction de cette Europe, etc., etc. Ça, c'était le mandat initial de ce qu'on appelle les institutions de Bretton Woods, essentiellement FMI et les quatre banques qui sont dans le groupe, dans le World Bank Group. Peu à peu, et ensuite, surtout dans les années 70-80, avec l'irruption sur la scène internationale, à partir de 62, commence la vague de décolonisation, par exemple en Afrique, libération de l'Algérie en juin 62, et puis ensuite la vague de décolonisation les souverainetés constituées en Afrique, la révolution cubaine victorieuse en 59, etc., etc. Et là, le Fonds monétaire international est devenu autre chose, est devenu porteur de cette idéologie qui maintenant est triomphante, qu'on appelle le néolibéralisme pour aller très vite, et pour assurer à travers la gestion de la dette, l'ouverture de toutes les frontières et la disparition graduelle de toutes les résistances à la pénétration dans ces nouveaux territoires du capital financier européen, américain et un tout petit peu japonais. Je vous donne un exemple. J'ai d'anciens étudiants qui sont à Washington, j'en ai deux, très intelligents. Je dis pas leur nom parce que ce serait pas content, mais qui sont au Fonds monétaire international et qui sont totalement convaincus et que je vois quand je suis à New York aux Nations Unies, ils sont totalement persuadés que la libéralisation, la privatisation, c'est la soumission sous la loi de la maximisation du profit de toutes les activités humaines, fait que le capital ira à n'importe quel moment là où il fera le profit maximum. Et donc que le développement productif des forces de production partout dans le monde se fera à condition que disparaît la normativité de l'État avec les freins, avec les lois, avec la souveraineté territoriale, etc., etc. Donc libéralisation, stabilité macroéconomique, réduction budgétaire et privatisation, ce sont les quatre piliers de ce qu'on appelle le consensus de Washington, qui est cet accord entre les banques de Wall Street et les institutions de Bretton Woods. Et ils sont personnellement complètement convaincus de ça. Et c'est vrai que le produit mondial brut augmente.
Dans son film Wagenhofer, je rappelle le titre, hein, We Feed the World, il montre aussi des gens qui sont les acteurs à l'intérieur de ces mécanismes. Hein, il montre des scientifiques, il montre des... il y a le patron de Nestlé. Oui. Il montre ceux aussi qui sont pas fort nécessairement des salauds, mais qui sont pris dans une machinerie qu'ils n'approuvent pas, mais ils sont des rouages plus ou moins conscients. Et on en voit un dans la séquence sur la Roumanie, qui il est à quelques semaines, mois de sa retraite, et qui balance oui, tout. Oui. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de toutes ces organisations, de toute cette grande mécanique de la globalisation, de cette mondialisation libérale, c'est-à-dire le capitalisme actuel, pour aller vite, il y a pas que des ennemis, il n'y a pas que des salauds, il n'y a pas que des monstres froids, etc. Il y a plein de gens qui sont conscients de ce qui se passe et qui hésitent et qui souffrent et qui sont dominés aussi par le système.
Vous avez tout à fait raison. Par exemple, Brabeck, qui figure dans le film, enfin qui est un peu celui qui fait le contrepoids contre mes interventions, est certainement, enfin il ne me parle pas, mais enfin, c'est certainement un homme tout à fait convenable sur le plan privé. Il s'agit de violences structurelles, il s'agit de violences systémiques, un système d'oppression mondiale et de réféodalisation du monde, quelle que soit la qualité humaine des acteurs qui détiennent effectivement ce pouvoir de jour après jour. C'est une question de violence structurelle qu'il faut, cette violence-là qu'il faut briser. J'ai dans mon livre, donc dans l'Empire de la honte, par exemple, je prends un exemple, l'exemple du café éthiopien. J'étais en Éthiopie, des millions de planteurs de café à Kaffa Sidamo, donc dans le sud, où le café d'ailleurs est né, sont maintenant ruinés. Parce que dans les derniers 3 ans, les 5 grands acheteurs mondiaux, dont Nestlé le premier, du café, ont spéculé à la baisse des prix. Et le kilo de grain était de 1,2 $ fin 2003. Il est de moins de 50 cents aujourd'hui. Donc les 2/3 du prix à l'achat s'est effondré. Et les paysans du sud de l'Éthiopie, du Sidamo notamment, ou du Kaffa, ne peuvent plus survivre, ont arrêté de cueillir le café, puisque ça permet plus de gagner un minimum d'argent pour acheter du riz ou du manioc dont on a besoin pour survivre. Ils sont allés à Addis Abeba, à Diré-Dawa, etc., dans les bidonvilles où ils sont détruits. Alors, si Brabeck ne spéculait pas à la baisse sur le café, et donc augmenterait grandement son profit annuel de la société, hein, de la personne juridique. Nestlé a 275 000 employés dans 81 pays du monde, hein, et contrôle près de 10 000 marques différentes, et entre autres le Nescafé. Exemple. Si Brabeck ne spéculait pas à la baisse, accepter donc implicitement la destruction de dizaines de milliers de familles éthiopiennes. Et si donc son profit baisserait, hein, le retour sur capital baisserait, bien les actionnaires le chasseraient. C'est évident, il ne survivrait pas 3 mois à Vevey au quartier général avec toutes les stratégies, tout ce que vous voulez. Pour l'instant, il gagne 26 millions d'euros par an. Hein, ce qui est quand même pas mal, ce qui vous incite de vouloir maintenir votre poste, rester sur votre fauteuil. Mais il a plus que ça, il n'y a pas l'avidité de Brabeck, il a cette nécessité absolue de respecter ce qu'on appelle horriblement le shareholder value, c'est-à-dire le retour sur capital, et s'il n'augmente pas de 15 ou 20% ce rendement par an, eh bien, il n'est plus président directeur général de Nestlé. Pour faire ça, pour couvrir ce qui est évidemment une activité finalement criminelle au sens pénal, puisqu'on tue même involontairement des gens, il y a cette théorie néolibérale. Et lui, Brabeck, vous le dit dans le film, c'est le marché qui décide. Lois naturelles du marché. Il n'a plus de sujet, il n'a plus de dirigeants économiques qui prennent des décisions, etc. Les dirigeants économiques se conforment aux lois du marché mondial qui tient de la nature. C'est-à-dire, cette main invisible, Bourdieu a toujours dit, le néolibéralisme, c'est comme le sida. Il détruit d'abord les forces immunitaires de la victime. Et puis après, il tue la victime. C'est pour ça que le combat de la radio, du livre, du film est tellement important, parce qu'il faut démontrer, libérer au moins les forces de résistance, on peut encore perdre après, les forces de résistance des hommes et des femmes en démocratie, hein, où la résistance est possible, pour leur dire il n'y a aucune naturalité dans le marché.
C'est ça.
Le marché est nécessaire comme instrument, hein, comme le crédit bancaire était un instrument économique important. Mais d'abord, il y a le contrat social, la normativité. Un peuple dit ce qu'il veut faire sur son territoire. Il veut la justice sociale, il veut la solidarité dans sa politique intérieure et extérieure. Il veut un minimum vital pour tout le monde. Et une fois que cette normativité est assurée par la loi, par la volonté collective, reçue et fortifiée par une conscience collective en éveil, alors là, le marché peut jouer dans cette limitation-là. Mais dire qu'il y a une main invisible, il y a des lois naturelles qui font que parce que il y a une dictature effroyable en Chine où les syndicats sont interdits, policièrement interdits. Il y a la misère, les salaires de misère dans les zones de libre production de textiles de Dhaka que j'ai vu au Bangladesh ou en Thaïlande ou à Santo Domingo. C'est pour ça qu'on doit délocaliser. Il faut aller là où le profit est maximum, même si les hommes, là-bas, hein, sont réduits à l'état de spectre et de spectre angoissé, parce qu'ils ont des enfants, ils ne savent pas comment ils vont manger le lendemain. Il n'y a pas de force naturelle qui domine l'économie. Il y a des acteurs identifiables qui doivent être soumis au contrat social.
Oui, ce qu'il faut faire comprendre aussi, je crois que c'est très important, vous le dites dans votre bouquin, on le sent à travers ce film, c'est que ces enrichissements, vous habitez Genève, on est à Paris, on voit une cité magnifique, très belle, etc. Ces enrichissements des pays riches se font au détriment des pays pauvres. C'est ça qu'il faut bien faire comprendre. Il y a un système de vase communicant qui est que là où il y a enrichissement, ça se fait au détriment de quelqu'un. Oui. On pourrait croire, si on parle des délocalisations, on pourrait se dire que la destruction de millions d'emplois dans un pays comme le nôtre, en France, ben oui, mais ça permet un enrichissement, enfin, de sortir d'une pauvreté bulgare, roumaine ou au Bangladesh, etc. Or, c'est absolument faux. C'est-à-dire que on va exploiter une main-d'œuvre dans ces pays que je viens de citer, mais lorsque cette main-d'œuvre montera un petit peu en exigence ou commencera un tout petit peu à s'organiser, hop, on délocalisera à nouveau pour chercher toujours la plus grande pauvreté et les coûts les plus bas possibles.
La destruction des emplois à Roubaix, Lille, etc. Je prends l'industrie textile ou français ou en Mulhouse, par exemple, où tout le textile a été liquidé. D'abord, aller en Corée du Sud et à Taïwan. Ensuite, là, ils sont partis dans les zones de libre production en Chine. Maintenant, parce que les salaires sont encore plus bas, ce que l'ouvrier français perd, l'ouvrier sud-coréen et maintenant l'ouvrier chinois ne le gagne pas. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, la globalisation produit une augmentation de la productivité, malgré tout. C'est-à-dire ces oligarchies du capital financier multinational et qui détiennent ces immenses empires, ces sociétés multinationales mondialement dominantes, accumulent des profits incroyables.
Dernière question, Jean Sigler. Malgré tout, je suis sûr de ce à quoi sont en train de penser les auditeurs. Ils sont en train de penser, mais qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Je suis certain qu'on vous pose à chaque fois que vous parlez quelque part cette question. Oui, mais moi, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire? Demain, qu'est-ce que je fais? Peut-être tout de suite aujourd'hui.
Non, c'est une question évidemment tout à fait centrale. Si vous, à deux niveaux, on doit faire des choses à deux niveaux. D'abord au niveau de la conduite tout à fait individuelle, privée, conduite de consommateur. Il faut refuser, par exemple, les produits OGM, les produits génétiquement modifiés. Parce que quand il y a des produits génétiquement modifiés, ça permet à Monsanto, par exemple, de remettre en esclavage financier un paysan. C'est-à-dire si un paysan un produit génétiquement modifié, par exemple, peut, si on met le génome de la tomate sur le riz, qui se fait aujourd'hui, vous pouvez obtenir un riz génétiquement modifié qui est plus résistant. Hein, qui a une dimension plus grande, qui est plus résistant aux intempéries, etc. dans un premier temps. Mais vous utilisez un brevet. Et si vous achetez les semences de Monsanto pour cet épi de riz génétiquement modifié, eh bien, chaque année, si vous prélevez sur la récolte de l'année passée la semence de l'année à venir, vous devez payer à Monsanto, ce qui est normal, la taxe sur le brevet.
Mais, enfin, et donc c'est normal, sauf qu'il y a une rupture avec avec toute l'histoire de l'humanité.
Mais totalement. Mais je parle du problème du génétiquement modifié. En fait, les OGM dans le débat présidentiel français, José Bové, une des axes de son combat essentiel, je prends un exemple, je pourrais prendre d'autres, est la lutte contre les OGM. Il dit, il ne faut pas d'OGM, d'organismes génétiquement modifiés dans les supermarchés français. Il ne faut pas permettre aux paysans français de les cultiver librement, il ne faut pas les importer d'ailleurs non plus. Parce que ça réduit en esclavage financier le paysan, le producteur, et en plus ça crée des dangers pour la santé de chacun de nous, qui sont certainement très sérieux. Enfin, la vache folle, ce qui sont développement lent, la vache folle est suffisante. Pour les OGM, le débat médical est totalement ouvert et probablement, les dommages pour la santé publique vont être terribles. Donc, aujourd'hui, dans tous les supermarchés européens, c'est le principe de précaution. Si dans une boîte de maïs ou n'importe quoi, il y a du génétiquement modifié, ça doit être indiqué. Eh bien, vous refusez d'acheter du génétiquement modifié. Ça, vous pouvez le faire tout de suite. Vous refusez d'acheter des légumes ou des fruits à contre-saison. Par exemple, les melons du Guatemala, que Del Monte, si vous êtes sur la Sierra de Chocotan, vous voyez la plaine du Pacifique avec la terre noire, la fertile, etc., qui est complètement trustée, soit par le latifundium, soit par les multinationales américaines. Mmh. Vous voyez dans la Sierra de Chocotan, par exemple, des dizaines et des dizaines de kilomètres de plantations de melons. Eh bien, le melon en Europe a d'abord est tout à fait planté quoi en Provence et ailleurs à certains moments de l'année. Donc il faut manger d'abord ce qui est produit sur le territoire où on est et refuser ce qui est contre-saison, c'est-à-dire en plein hiver acheter les melons du Guatemala qui viennent sur des milliers de kilomètres, qui sont produits par des gens qui ne gagnent rien, qui sont malades, qui ont des vers dans le ventre, dont les écoles, il n'y a pas d'école pour les enfants et qui meurent de la moindre infection parce qu'il n'y a pas de soins médicaux. Ces melons qui sont produits d'une façon détestable, dans la contrainte, ensuite sont transportés brûlant des centaines de tonnes de kérosène du Pacifique jusqu'à Roissy, qui sont là en plein hiver, des melons frais. Eh bien non, les produits de contre-saison, on les veut pas. Donc, je pourrais continuer. Donc, en tant que consommateur, silencieusement, sans analyse conceptuelle très poussée, vous pouvez, par votre conduite, mettre en échec un certain nombre de mécanismes absurdes d'oppression et qui ravagent l'environnement et qui détruisent la vie des producteurs. Ça, ensuite, la deuxième chose, c'est la mobilisation des citoyens et citoyennes. C'est forcer notre ministre des Finances ou le président de la République de voter pour la réduction de la dette du Honduras et du Bangladesh, pour qu'au Bangladesh, maintenant, le gouvernement ait un peu d'argent, au lieu de le payer aux banques créancières, pour faire des écoles, pour faire des routes, pour faire des hôpitaux, pour faire des investissements dans l'agriculture vivrière. Et ça, la mobilisation peut le faire, et je suis effrayé comment dans cette campagne présidentielle. Voilà. Maintenant, je dis, j'ai pris José Bové qui lutte magnifiquement, mais enfin parmi les grands candidats, je dis ça rapidement, la faim dans le monde, le commerce d'armes, les épidémies, la privatisation de l'eau par les grands trusts et l'exclusion de l'eau potable graduellement de dizaines de millions de gens qui ne peuvent pas payer les nouveaux taxes à Sao Paulo, à Manille, à Cochabamba, n'est même pas mentionné. n'est même pas mentionné. Les grands candidats qui ont la parole par des soirées entières devant les télévisions ou à France Inter, etc., ne mentionnent même pas le destin des deux tiers de l'humanité,
oui,
et ceci à
monde,
Paris,
oui, oui, oui.
Et ceci à Paris, qui n'est qu'à, qui est pas le Basse-Outre-Lande, qui est la patrie des Lumières. Et je dis pas que tout le monde doit être d'accord avec les thèses fondatrices de la nouvelle société civile planétaire de Porto Alegre. Non. Non, on peut avoir une vision différente, évolutive, on peut même plaider pour les lois naturelles du marché qui un jour développeront tellement les richesses sur Terre qu'il aura une pluie dorée qui nécessairement va tomber jusqu'aux plus pauvres. C'est aussi une théorie qui existe, enfin, qui était celle d'Adam Smith et de David Ricardo. Même ça n'est pas évoqué. Même ça n'est pas évoqué. Mmh. C'est-à-dire, Brecht a dit toujours, il y a ceux qui sont dans la lumière et ceux qui sont dans la nuit, et on voit ceux dans la lumière, on ne voit pas ceux dans la nuit. Et Bernanos, je m'excuse, je saute de Brecht à Bernanos, qui dit « Dieu n'a pas d'autre main que les nôtres. Ou bien c'est nous qui changeons ce monde, ou bien c'est personne. »
C'était « Là-bas si j'y suis » à lire « L'Empire de la honte » de Jean Ziegler aux éditions Fayard et « Le marché de la faim » d'Erwin Wagenhofer et Max Anas chez Actes Sud. Et à voir « Le marché de la faim » qui sortira sur les écrans le 25 avril. D'autre part, nous vous signalons que le collectif Aux urnes, etc. entame à partir d'aujourd'hui sa dernière semaine de tournée à Sens, au programme de nombreux concerts, débats et films. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission « Là-bas si j'y suis » à la technique aujourd'hui Éric Morin et Pierrick Mancini. Réalisation Yann Chouquet et Koyen Guyenne, assisté de Charlotte Perry, chef du répondeur Christophe Imbert. Il est 16h.